BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est BFM Patrimoine qui ouvre ses portes. On vous accueille pour 2 heures d'expertise liée au monde de vos placements. C'est notre promesse quotidienne et on commence par une plongée au cœur des marchés grâce à Antoine Larigauderie que l'on rejoint comme chaque jour au cœur de cette salle de contrôle du CAC au siège de Ronex à la Défense. Bonjour Antoine, que se dit-on sur nos marchés?
Bonjour
ce matin
Cédric. On aimerait bien rebondir, mais que c'est vraiment très très difficile. On a un rebond vraiment très maigre. Plus 0,05% pour le CAC 40. On est à 6063 points. On avait l'impression qu'on allait quand même rebondir ce matin. On avait des calls qui étaient plutôt bons, les futurs qui étaient plutôt bien orientés. Puis voilà, deux chiffres qui retiennent l'attention ce matin et qui sont absolument spectaculaires. 45%, c'est le taux d'inflation sur un an des prix à la production en Allemagne. C'est beaucoup plus qu'attendu. On attendait 35-36%. Là, on est à 45%. On est sur des dynamiques d'inflation qui deviennent absolument spectaculaires. Et ce matin, autre chiffre qui marque vraiment les esprits, c'est la Banque centrale de Suède. Alors, la Suède, on est d'accord. Mais qui a décidé de briser tous les tabous et qui, elle, remonte ses taux de 100 points de base, d'1%. Et ce, la veille d'une décision de la Fed du même ordre. Donc, autant vous dire qu'on est vraiment très tendu sur les marchés en ce moment. Si on regarde la réaction des taux obligataires 10 ans, alors c'est vrai que ce sont les taux 2 ans qui sont les plus réactifs à ce genre de décision de politique monétaire, et ils sont déjà bien bien tendus. Mais si on regarde là ce qui est en train de se passer, on est passé de 2,3% pour la dette française 10 ans en clôture hier à 2,39 ce matin. C'est encore 9 points de base de gagné. 1,85 pour la dette allemande, et on est bien au-delà des 3,5 maintenant pour la dette américaine à 3,51. Donc, une atmosphère extrêmement tendue. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe sur l'euro-dollar, on est sur des points d'équilibre, étant donné que les taux se tendent partout. Ben, on est à 1,0031 sur l'euro-dollar. On n'a que très peu bougé après publication de ces chiffres et de ces nouvelles vraiment très lourdes ce matin. Et donc, du coup, les perspectives de progression des marchés actions sont très maigres. L'Eurostoxx 50, quand même, signe un plus 0,2%, qui est un petit peu plus probant. Mais regardez, Francfort, un plus 0,07%. Partout, on est sur des progressions minimes. À signaler quand même quelques titres qui s'en tirent plutôt bien. Renault qui gagne 1,4% à 32,02€. On a Kering plus 1,3% à 499,70€. Peut-être la barre des 500 en séance. Mais on sent qu'il y a une reprise sur les secteurs qui sont touchés par les cycles économiques et également les taux obligataires, que ce soit les valeurs cycliques, les valeurs de croissance. Elles ont été largement vendues ces dernières séances. Donc il était logique qu'il y ait un petit peu de rattrapage. Mais il n'y a pas forcément plus de conviction. C'est plus de la chasse aux bonnes affaires qu'autre chose. On regarde aussi dans le luxe Hermès qui gagne 0,7% à 1251€, ou encore L'Oréal plus 0,66 335,25€. Malgré tout, c'est encore difficile pour le compartiment technologique. Capgemini moins 1,46 165,60€. Dassault Systèmes moins 1,32 à 35,87. Et puis parmi les plus fortes baisses du moment sur le CAC, on a Eurofin Scientifique moins 2,5% à 62,96€. Téléperformance moins 1,98 277,80€. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Valneva qui sort déjà d'une séance très difficile et le titre perd encore 9,7% à 5,90€ après publication de ses chiffres semestriels. Puis à noter la plus forte hausse, c'est Air France KLM qui gagne en ce moment 1,6% à 1,40€, mais qui vient d'être dépassé par Valeo qui prend 1,9% à 18,99€. Le CAC moins 0,05%, ça y est, on passe dans le rouge. Ben voilà, le rebond a fait long feu, 6058 points et l'euro 1,0028. Cédric.
Antoine Larigauderie, que l'on retrouve chaque matin pour prendre le pouls de cette première heure de cotation.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Et on commence par vous accompagner dans la côte parisienne grâce ce matin aux lumières de Charles François. Bonjour Charles.
Bonjour Cédric.
En ligne avec nous depuis Flornois pour nous proposer de jeter un œil sur Bastide-Leconfort. Pourquoi ce choix ce matin ?
Absolument, on va faire un petit tour sur les petites sociétés cotées de la côte parisienne avec Bastide, qui est valorisée aujourd'hui 240 millions d'euros. Et c'est aujourd'hui cette société la spécialiste des équipements et des services liés à l'hospitalisation à domicile. Alors on est dans une société encore très implantée en France, puisque plus de 80% du chiffre d'affaires y est réalisé, même si l'entreprise actuellement est en train de s'internationaliser davantage. Alors ce qu'on apprécie, nous, sur ce dossier, c'est son positionnement, puisqu'elle est présente sur deux tendances de croissance longue. La première étant le vieillissement de la population, ça c'est un fait. La deuxième tendance, c'est l'hospitalisation à domicile qui, elle, est plutôt une tendance qui est poussée par les autorités publiques qui souhaitent, et c'est en fait dans l'intérêt de tout le monde, hein, que les séjours en hôpitaux durent le moins de temps possible au profit d'une hospitalisation à domicile. Et la stratégie de Bastide Le Confort est, à mon sens, plutôt la bonne pour adresser ce vaste marché qui est l'hospitalisation à domicile, puisque l'entreprise se repose sur un maillage extrêmement dense du territoire français, hein, essentiellement, à travers un vaste réseau de boutiques, que ce soit en propre ou en franchise, et ça leur permet d'asseoir vraiment une vraie proximité avec les clients existants ou à venir. Et cette stratégie, elle est plutôt validée par les chiffres, puisque si on regarde la dernière publication en date, c'est la publication du chiffre d'affaires 2021-2022, puisque la société publie en exercice décalé, clôture à fin juin. Et si on regarde le dernier trimestre, le quatrième trimestre est en croissance de 14% au-dessus des attentes des analystes. Et si on regarde un petit peu l'avenir, le management est tout aussi confiant, puisque la guidance pour l'exercice 2022-2023 est à une croissance à plus 11%, sachant que la société communique traditionnellement de manière assez prudente. Donc on a une vraie trajectoire de croissance régulière de cette entreprise qui est confirmée à travers les derniers chiffres. Autre catalyseur sur le titre, si on regarde au niveau un petit peu plus boursier, ça pourrait être l'accélération des acquisitions, puisque le marché de l'hospitalisation à domicile est extrêmement fragmenté et Bastide se veut être un consolidateur de ce marché à travers de régulières petites acquisitions qui alimentent la croissance. Et comme pour beaucoup de métiers, les évolutions réglementaires toujours plus strictes favorisent plutôt les gros acteurs au détriment des petits qui sont justement tentés de se rapprocher d'acteurs tels que Bastide Le Confort. Donc on attend vraiment une accélération des conquêtes à l'international, ce qui serait un bon catalyseur pour ce titre qui, vous allez certainement me le faire dire, recule de près de 30% hein, depuis le début de l'année.
Parce que vous parlez de catalyseur, c'est vrai que on a du mal à les percevoir en regardant l'évolution du titre, y compris sur longue période. Hein.
Absolument. Alors, si on regarde un petit peu en arrière, Bastide a fait partie de ces titres du secteur de la santé qui ont eu le vent en poupe en 2020. Pendant le Covid, mais qui sont malheureusement maintenant délaissés alors que la qualité de la boîte est toujours là. Hein. Si on regarde un petit peu la valorisation, aujourd'hui, le PER 2023 est de 10 fois. Le ratio de VE sur EBITDA, il est de 4,5 fois. C'est une valorisation très en deçà de ce que l'on peut observer dans le domaine de la santé, alors qu'on est vraiment sur une entreprise extrêmement bien gérée par la famille Bastide, qui possède la majorité du capital. Et c'est aujourd'hui notamment Vincent Bastide qui a pris la suite de son père Guy, le fondateur de l'entreprise. Donc une vraie entreprise familiale, un vrai historique de croissance pour cette société très très bien gérée, même si, et je vais en terminer avec ça, il y a quelques points de surveillance hein, malgré tout sur ce dossier. Le premier et principal étant le financement, puisque aujourd'hui la société a un levier, donc la dette nette sur l'EBITDA de 2, mais c'est un niveau qui est assez loin hein, du covenant qui est à 3,5, sachant que d'un côté la société génère du cash et de l'autre le mix produit améliore l'EBITDA, donc c'est ce qui va faire détendre mécaniquement ce ratio. Mais malgré tout la question du financement pourrait se poser, mais plutôt dans le cas d'une acquisition structurante, mais ça semble pas vraiment à l'ordre du jour hein, si on écoute la communication de la société. L'idée aujourd'hui, elle est plutôt d'ajouter des petites briques pour compléter l'offre, notamment au niveau géographique, comme ils l'ont fait récemment avec une acquisition en Italie.
Merci beaucoup Charles-François. Donc Bastide Le Confort mis en lumière ce matin. On est sur un titre qui ce matin, eh bien, cote 31,90€, quasiment inchangé pour le moment. Et si on regarde le consensus des analystes qui suivent la valeur, eh bien, ils ont un objectif de cours moyen de 49,30€ sur ce titre Bastide Le Confort médical. Le CAC 40, lui, reste pour le moment ancré au-dessus des 6000 points. On a réussi ces dernières heures à maintenir ce seuil, c'est peut-être l'essentiel. L'indice qui perd 0,3% pour le moment après avoir débuté la journée dans le vert.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et pour causer conjoncture, on accueille Marc Toitier qui est en ligne avec nous depuis le cabinet ACDFI. Bonjour Marc.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous. Alors le chiffre du jour, il nous vient d'Allemagne et il est assez exceptionnel parce que les prix à la production, alors on est vraiment au contact de l'inflation, hein. Les prix à la production en Allemagne ont enregistré en août une hausse sans précédent, que ce soit sur an ou sur un mois. Alors sur un an, attention, 45,8% et sur un mois, 7,9%. C'est grave, docteur ?
Ah oui, ça c'est vraiment des chiffres complètement fous, si vous voulez, qu'on n'a jamais vu tout simplement. Hein. Donc vous l'avez bien dit, les niveaux historiques. Et donc surtout de mois en mois, on se dit bon, ça va peut-être se calmer parce qu'il y a une petite baisse des prix des matières premières, etc. Et là, on voit que malgré la baisse des cours des matières premières, eh bien, on a quand même une augmentation de l'inflation des prix à la production. Alors pour faire simple, les prix à la production, c'est l'indicateur avancé de l'inflation. C'est-à-dire, ça nous dit où va aller demain l'inflation. Bon, elle va pas monter à 45%, il y a toujours effectivement une marge. Hein. Les entreprises ne répercutent pas complètement sur les prix de vente, et puis il y a d'autres types de services notamment qui ne rentrent pas dans ces chiffres, mais néanmoins, ça veut dire que l'inflation allemande pourrait très vite dépasser les 10%, si vous voulez. Et surtout, rappelez-vous que les Allemands ont une peur bleue de l'inflation, c'est-à-dire que pour eux, c'est la référence aux années 20, etc., l'hyperinflation, donc c'est un drame, bien entendu. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a cette situation assez catastrophique qui montre qu'on a à la fois donc une inflation qui explose, hein, disons le mot, et parallèlement une récession qui est en train d'arriver. Hein, on a eu la semaine dernière l'indicateur ZEW en Allemagne, là aussi des plus bas quasiment historiques, c'est un plus bas depuis en fait la récession de 2008, donc là aussi ça inquiète, on se dit on a à la fois une inflation élevée, voire très élevée, et une récession économique, et donc ça complique également la politique de la Banque Centrale Européenne, parce que évidemment, comme elle n'a pas monté les taux d'intérêt suffisamment tôt il y a déjà quelques mois, elle le fait aujourd'hui, mais c'est trop tard, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle pro-cyclique, c'est-à-dire ça va aggraver la récession. Donc c'est ça qui aujourd'hui est particulièrement dangereux, on est dans un corner, comme on dit en foot, hein, c'est-à-dire qu'on est bloqué, on est pris dans notre propre piège, où finalement, notamment l'Allemagne, encore une fois, qui justement n'a pas arrêté de dire à la BCE, il faut arrêter la planche à billets, il faut augmenter les taux d'intérêt. Et Madame Lagarde et acolyte ont dit non, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est parfait, etc. Bon, et malheureusement, on voit que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, et aujourd'hui, on se réveille, si vous voulez, avec un peu la gueule de bois, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très dangereux parce que pour les marchés notamment, à chaque fois, on se dit bon, l'inflation va se calmer. Et non, ça continue d'augmenter, sachant qu'en plus, on a l'euro qui continue de baisser. Et rappelez-vous que quand l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne, qui était le meilleur élève de la zone euro, est en train de devenir l'un des cancres. Alors, c'est pas le seul, c'est vrai, mais néanmoins, c'est vrai que ça nous change. Alors, néanmoins, il ne faut pas se féliciter de cela, hein, puisque n'oublions pas que l'Allemagne, c'est la locomotive de la zone euro. Donc, si la locomotive s'arrête, le train s'arrête, hein, voire il pourrait même dérailler. Donc, c'est très dangereux.
Justement, que faire maintenant? Parce que la Banque Centrale Européenne, elle a amplifié pour le moment sa réaction. Il faut continuer à durcir le cap, sachant qu'en face, la Fed va renforcer aussi, enfin, va poursuivre son resserrement. Pour le moment, on balance encore entre 75 et 100, mais c'est 75 qui tient la corde. Oui. Du coup, on se retrouverait avec la question de l'eurodoll. Enfin, je veux dire, on arrive presque à l'équation insoluble, non?
Ah oui, j'ai envie de dire, malheureusement, la BCE n'a pas le choix, encore une fois, mais ne l'oublions pas, elle s'est mise elle-même dans ce piège. C'est-à-dire pour moi, en ce qui me concerne, j'ai aucun remords, parce que je l'ai prévenu il y a déjà plus d'un an. Attention, l'inflation augmente. Elle dit non, il n'y a pas d'inflation, tout est bien dans le meilleur des mondes, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et sauf que voilà, c'était la croisière s'amuse, là on est passé, je dirais, au Titanic. C'est-à-dire que voilà, on a cette situation aujourd'hui où la BCE n'a pas voulu réagir. Et donc elle s'est mise elle-même dans ce piège. Et malheureusement, maintenant, elle n'a plus le choix. Comme la réserve fédérale américaine va encore monter les taux d'intérêt fortement aujourd'hui et peut-être encore dans un mois et demi, à ce moment-là, elle est obligée de suivre. Parce que si elle ne suit pas, l'euro va encore s'effondrer. Et comme je l'évoquais à l'instant, si l'euro s'effondre, eh bien, ça fait augmenter les cours des matières premières. Donc, voilà le piège, si vous voulez, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, oui, la BCE va encore monter les taux d'intérêt, toujours avec un ou deux trains de retard, si vous voulez. Mais elle n'a plus le choix. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, ça va aggraver la situation économique, puisque si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'investissement, ça casse la consommation. Donc, voilà, c'est triste parce que, encore une fois, c'est vrai qu'on n'a plus connu cette situation depuis le début des années 80. Et donc, bien entendu, toute notre génération n'a pas eu à gérer ceci. Hein, et on voit certains économistes qui disent, encore aujourd'hui, oui, hein, je crois même d'ailleurs avec vous hier sur votre plateau, non mais c'est pas grave, l'inflation, l'euro qui baisse, non tout va bien. Non, c'est extrêmement grave, vous voyez. Et donc le problème est là, c'est qu'on se voile la face, on est dans le déni de réalité, et donc c'est pourquoi les marchés restent très fragiles, très fragilisés, parce que justement, il y a peut-être un pilote dans l'avion, mais il ne sait pas piloter. Il ne connaît pas la mesure, si vous voulez apprendre.
Justement, comptons sur vous, Marc. Vous nous disiez, ça fait plus d'un an que j'ai agité le chiffon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Marc Twetti, dans le siège de Christine Lagarde, qu'est-ce qu'il fait?
J'ai envie de dire que déjà clairement, il faut arrêter complètement la planche à billets. Ça, c'est sûr que pour les États, notamment où la dette publique augmente, il faut arrêter. Il ne faut pas dire anti-fragmentation, etc. Non, il faut assumer de ce point de vue-là. Et puis, il faut donner un cap. C'est-à-dire qu'il faut augmenter effectivement le taux d'intérêt en disant que voilà, on va soutenir l'euro. Et alors le problème, c'est que, faut être honnête, tout va dépendre également dans quelques jours, là, le 25 septembre de la élection italienne. Parce que si effectivement une majorité, une coalition du moins europhobe arrive à la tête de l'Italie, alors là, on peut plus rien faire. Là, on ne répond plus de rien. Donc là, les taux d'intérêt à long terme vont exploser à la hausse et les marchés boursiers vont baisser. J'espère qu'on va éviter ce scénario catastrophe. Mais c'est clair que le scénario existe. Encore une fois. Et c'est là qu'est le drame, c'est que là, on oublie que la zone euro, là, c'est évidemment, on dépasse la BCE, la zone euro n'est pas terminée. C'est-à-dire, la zone euro, j'avais écrit un livre il y a très longtemps, quand la zone euro explosera, en disant, attention, si on ne fait rien, eh bien, la zone euro va finir par exploser. Et donc, comme on n'a rien fait, aujourd'hui, on est au bord du gouffre, si vous voulez. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un problème à la fois monétaire et un danger également politique, où aujourd'hui, la zone euro n'est plus un jeu coopératif. Et donc, c'est ça qui devient particulièrement dangereux. Et c'est sûr que, bon, la guerre en Ukraine n'a pas arrangé les choses. Hein. Ça a mis, bien sûr, de l'huile sur le feu. Et là aussi, on voit que, même au sein de cette guerre, hein, on a vu dernièrement l'Italie aller en Algérie chercher du gaz. Puis après, M. Macron est arrivé juste derrière. Et l'Algérie lui a dit, bah, désolé, on a tout donné à l'Italie. Donc, vous voyez, c'est pas un jeu très coopératif, tout ça. Vous voyez. Donc, tout ça fait que, attention, il y a également des tensions, des dangers, si vous voulez, d'un point de vue monétaire, mais également d'un point de vue politique. Donc, voilà, la solution, elle existe. Maintenant, malheureusement, bah, il faut être honnête. Pour sortir d'une phase de forte inflation, malheureusement, c'est toujours la même chose, il n'y a qu'une seule solution, c'est la récession. Et donc voilà, merci à nos dirigeants qui nous ont mis dedans. Mais voilà, je suis désolé, encore une fois, il va falloir faire le dos rond, on s'en sortira. Les crises sont toujours des phases d'opportunité, mais il y aura quand même effectivement des situations assez compliquées, notamment pour la France et pour l'Allemagne également.
Marc Toiti, donc, depuis le cabinet SDFI. Merci, Marc, d'être passé nous voir ce matin. Le marché parisien qui, pour le moment, se maintient au-dessus des 6039 points, mais on a abandonné le climat haussier qui prévalait dans la première heure. On perd 0,36%.
Votre rendez-vous avec Otari, solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari. BFM Business, BFM Patrimoine. La vie IMO.
La vie IMO qui accueille ce matin Grégoire Mitry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Nantes et vous êtes surtout en charge de la communication du 118e Congrès des notaires de France. Le Congrès des notaires, c'est quoi ?
Alors, le Congrès des notaires, c'est une vieille institution, une institution ancienne, puisque l'équipe actuelle, c'est le 118e Congrès des notaires de France. C'est le plus ancien salon professionnel d'Europe. Et donc, ça fait 118 fois que les notaires se retrouvent pour discuter de sujets de société, de droit, bien évidemment. Et en fait, ça se déroule en deux temps, un congrès des notaires. Il y a une première partie qui est la publication d'un ouvrage qui est intervenu au début de l'été. Un ouvrage conséquent sur un point de droit particulier. Un ouvrage qui est disponible en ligne sur le site du Congrès des notaires, qui fait 1800 pages.
C'est déjà un beau bouquin.
C'est pour ça qu'il est numérique, hein, parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans l'édition papier. Et donc, on fait un point de droit. Hein, c'est vraiment une référence juridique, cet ouvrage. Ça, c'est la première partie. Et puis, la deuxième partie, eh bien, ça sera à Marseille, du 12 au 14 octobre, où on va discuter de tout ça.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement à Marseille ?
Alors, concrètement, ce qui va se passer à Marseille, l'équipe qui a travaillé va présenter aux personnes qui sont présentes, donc les propositions hein, pour faire évoluer, pour améliorer notre droit. Alors, les personnes présentes, c'est bien évidemment des notaires, hein, il y en a à peu près 3500, mais il y a également, et c'est bien logique puisqu'on va parler de droit, des professeurs d'université et des professionnels en moindre nombre d'autres professions. On va discuter du droit. On va essayer de faire progresser le droit, de l'améliorer, de le mettre plus en phase avec notre société. Et c'est efficace puisque depuis 1956, il y a à peu près 120 textes de loi qui sont issus des travaux du Congrès des notaires.
Qui inspire donc finalement la législation. Le thème, c'est quel est le thème cette année ?
Alors cette année, le thème, c'est l'ingénierie notariale. Donc c'est pas forcément très simple à appréhender. L'idée c'est de rappeler aux notaires qu'ils ont des connaissances et qu'ils ont également une connaissance de leur clientèle, des problématiques spécifiques de leur clientèle. Et donc l'idée c'est de les inciter conseiller, à anticiper, à faire des clauses, on va dire, du sur-mesure plus que du prêt-à-porter. Tout ça, dans le but, hein, qui est quand même inhérent à notre profession, de pacifier, d'éviter les conflits. Hein, les notaires sont les magistrats de l'amiable, et donc là, il y a un vrai rôle à jouer en mettant en œuvre une ingénierie notariale.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques propositions que vous allez faire? Alors, on ne va pas résumer en quelques poignées de minutes les 1800 pages, ni même dévoyer ce qui va se passer à Marseille, mais quelles propositions allez-vous porter?
Alors, c'est effectivement, on ne va pas tout reprendre, parce qu'il y a 13 propositions extrêmement complètes, qui seront développées. On essaye d'être pragmatique, et donc, je vous disais, de faire avancer le droit. En matière immobilière, par exemple, il va y avoir une proposition pour une définition du professionnel. Quand vous achetez une voiture chez un garagiste, ben vous n'avez pas les mêmes garanties et le professionnel n'a pas les mêmes obligations, la même responsabilité que si vous achetez votre voiture sur Le Bon Coin ou sur Gens de Confiance. En matière immobilière, c'est un peu la même chose, sauf que on ne sait pas exactement ce qu'est un professionnel.
D'accord.
Par exemple, vous, par exemple, vous, dans votre maison, vous rajoutez une véranda, vous refaites la toiture, etc. Et ben aujourd'hui, vous serez considéré comme un professionnel de l'immobilier au moment de la revente. Ça veut dire que ben, vous aurez des obligations, des responsabilités vis-à-vis de votre acquéreur dont vous n'avez probablement pas conscience.
Du coup, ça c'est sur l'immobilier. Ouais. Par exemple, en matière de famille.
Alors, en matière de famille, il y a pas mal de choses là aussi, mais on sait que quand on se marie, quand on ne fait pas de contrat de mariage, on est soumis au régime de la communauté légale, donc la communauté réduite aux acquets. Ça concerne 84% des Français. On a fait un petit sondage avec l'IFOP sur ces personnes-là, on leur a demandé si elles pensaient connaître les règles donc qui régissent cette vie.
Leur statut, finalement.
Leur statut, quelle est la propriété des biens, etc. 71% ont répondu oui, on connaît. Mais quand on a commencé à leur poser des questions un petit peu plus précises, des questions simples, par exemple, est-ce que la maison que vous avez reçue pendant votre mariage de l'héritage de vos parents, est-ce que cette maison elle est commune ou alors elle appartient à l'héritier? La réponse c'est qu'elle appartient à l'héritier. Eh bien, 61% de nos concitoyens se sont trompés. Et donc, on s'est dit que c'était pas possible, notamment parce que pendant la vie commune, c'est pas grave de
ne
pas exactement comment ça fonctionne.
Ouais.
Mais le problème, c'est que ça génère, quand il y a un divorce, ça génère de l'incompréhension et donc de la tension et du conflit. Et donc, on va proposer de rendre obligatoire une visite chez le notaire, une visite qui sera gratuite, avant le mariage, de manière à ce qu'on puisse expliquer aux futurs mariés un petit peu comment ça va se passer, les conseiller et également voir avec eux s'ils ont besoin ou pas d'un contrat de mariage.
Bon, ça c'est pas mal. Autre proposition. Allez, il nous reste un petit peu moins d'une minute, donc un dernier exemple.
Alors, au niveau des entreprises, alors là, on avait une proposition, on a été rattrapé par l'actualité. C'est Patagonia, donc ce dirigeant d'une entreprise qui vaut plus de 3 milliards de dollars, qui a décidé d'apporter sa société à un trust, de manière à ce que les bénéfices puissent servir
à défendre
les actions. Voilà.
Comme il a dit, en gros, c'est la terre qui devient notre actionnaire.
Exactement. Bon. On a en France un système qui s'approche du trust américain qui a été mis en place par la loi Pacte en 2019, sauf que depuis 2019 il y a moins de 5 fonds de pérennité qui ont été mis en place. Donc on a regardé ça parce qu'on est souvent sollicité par nos clients chefs d'entreprise qui nous disent je voudrais faire quelque chose de mon argent mais pas forcément pour m'enrichir,
oui,
pour le bien commun. On est souvent confronté à ça et pourquoi ça ne marche pas? On a étudié, on a vu quelles étaient les problématiques et donc on va proposer des solutions, des ajustements légaux de manière à ce que ce fonds de pérennité devienne plus intéressant parce que ça fonctionne dans les autres pays, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en France.
Bon, voilà quelques exemples. 13, c'est ça, vous nous avez dit
13 propositions.
13 propositions, 1800 pages pour ce document lié à ce 118e congrès des notaires qui se tiendra donc à Marseille. Merci Grégoire Mitry d'être passé nous voir. On rappelle que vous êtes en charge de la communication de ce 118e congrès des notaires de France, les notaires qui nous accompagnent régulièrement sur le plateau pour illustrer telle ou telle proposition. Dans un instant, un détour par les marchés pour voir un petit peu ce qui se passe avec cette tendance haussière qui a été un peu abandonnée alors qu'elle tenait bon dans la première heure de cotation et de voir si les 6000 représentent un seuil important. N'oubliez pas non plus nos podcasts qui vous attendent sur le site.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Deux traders à votre service, c'est la promesse quotidienne de BFM Patrimoine. À 10h30, on retrouve deux professionnels de marché pour lire la tendance de façon graphique. Jean-Louis Cussac, comme chaque jour, depuis Perceval Finance Conseil, et en duplex avec nous depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, Romain Daubry. Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous aujourd'hui. Bonjour. Encore. On a besoin de vos lumières pour nous expliquer ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Là, on semblait être installé dans le vert, on semblait avoir réassuré les 6000 points, et puis d'un seul coup, patatras, tendance inversée, passage dans le rouge, et du coup, à nouveau, les 6000 menacés. Romain, comment lisez-vous les choses ?
Bonjour Cédric, bonjour à tous. On les lit de la même façon qu'hier, mais à l'inverse. C'est un marché qui est drivé par la spéculation pour l'instant et qui donc pour la, n'est pas l'objet de grosses initiatives et de mains fortes. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a préservé, on a testé largement et même on est passé sous des niveaux d'alerte hier qu'on a fini par préserver en clôture et on retourne les tester pour l'instant et en ce moment. C'est-à-dire qu'on s'apprête à rompre des niveaux importants avec des niveaux d'accélération baissière de l'ordre de 5 à 10%, 5% au moins et plutôt 10% selon les cibles moyennes sur les différents indices. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que on a eu beaucoup de pressions baissières ouvertes dans le courant du mois de d'août à septembre, pour l'échéance du mois de septembre sur les marchés dérivés, et qu'il y a une très grosse partie de cette position qui n'a pas été reconduite ou qui a été débouclée suite à l'échéance et entre l'échéance et hier. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des vendeurs qui ont manifestement capitulé, en amont de la grosse réunion de la Fed et de la décision des taux de mercredi soir, n'a pas décidé de reconduire ses positions et se montre prudente. Donc je pense qu'une grosse partie du rebond et du retournement de situation d'hier est due en partie à des rachats de short. On ne constate pas de soutien acheteur dans ce mouvement en tout cas, mais une diminution de la pression baissière. Donc ça c'est vraiment important et c'est un message fort parce qu'on préserve des niveaux d'alerte et on diminue la pression baissière. Ça ne veut pas dire qu'elles ne reviennent pas, mais en tout cas il y a des niveaux qui sont bien défendus. Alors ça nous permet d'élargir notre trading range sur le CAC 40, sur le futur CAC 40 à 5970 en bas. C'était le point bas de début septembre qu'on a retesté hier, on l'a défendu. Et en haut, 6480,5, c'est le haut du gap du 22 août dernier. Là, ce sont les bornes dans lesquelles le marché pourrait continuer à évoluer. Et c'est dans le contexte et dans le manque de visibilité actuelle le mieux qu'on puisse espérer. Alors c'est large comme trading range, donc on va zoomer un petit peu. Là-dedans, on a une médiane qui est située à 6220 points. Donc on aura un biais plus baissier tant qu'on est en dessous de 6220, et plus aussi si on repasse au-dessus, on en est loin pour l'instant. Là-dedans, on a des niveaux intermédiaires, il y a 5998 et 6040. Ça c'est une zone qui est importante de préserver pour éventuellement reprendre un peu de hauteur et ne pas retourner sur les niveaux d'alerte d'hier. Ça ce serait déjà un signe de faiblesse. On reprendrait un peu de couleur au-delà de 6140 points pour aller chercher donc au mieux 6220 points. Il y a peu de chances qu'on dépasse à mon avis 6140 sauf nouvelle avant la fameuse réunion de la Fed de mercredi soir. On peut noter aussi que du côté des couvertures, les portefeuilles sont couverts toujours, les investisseurs sont plutôt prudents même si la position ouverte est très faible sur les options, elle est de la moitié de ce qu'on connaît habituellement sur les options. Donc il y a des opérateurs qui sont très en retrait, un marché creux, une position ouverte sur le futur CAC 40 qui est très faible et sur les options aussi, des opérateurs qui sont prêts à bouger mais moins de pression baissière, ça c'est certain en tout cas.
Jean-Louis, de votre côté, comment lisez-vous cette tendance un peu sportive ce matin ?
Confuse. C'est confus. Ça confirme tout ce que j'essaye de vous expliquer depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose à quoi se raccrocher de vraiment précis. Il y a beaucoup d'incertitudes. On attend de nombreuses réunions de banque centrale, notamment Powell, qui va être très, 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 très écouté. Enfin, comme d'habitude, on a envie de dire, mais peut-être encore plus que d'habitude, mais à chaque fois, on dit la même chose. Ce marché, si vous voulez, ce matin, moi, je l'abordais en essayant de vendre le mieux possible, placé à 6113, 6135. Premier niveau a été fait, pas le deuxième. Je pensais que ça pouvait monter un petit peu plus. Mais bon, voilà, on a commencé, on répartit hein, les ventes par avance. C'est pas une moyenne, c'est vraiment une répartition. Et puis derrière, je pensais pas que ça allait descendre autant. Bon, ben voilà, on avait 6033 comme objectif potentiel. Mais y aller quelques minutes plus tard, c'est assez surprenant. Mais ça montre ce manque de densité, comme on l'a expliqué 100 fois, et ce marché manque de densité, il est totalement creux. Romain l'a expliqué tout à l'heure, il disait il est vide, il est creux, il est... Oui, bien évidemment, là on est absolument d'accord. J'ai pas très bien compris l'histoire des 5 à 10% de baisse, mais moi je vois pas du tout baisser de 5 à 10, de, au moins 5, peut-être 10, tout est possible. Mais si vous voulez, l'indication qui est envoyée, c'est la même un peu. Alors un peu moins bien ce matin, mais il faut pas se faire piéger par ces mouvements qui n'envoient pas de message fort. En fait, la fois dernière, regardez, on a rebondi très facilement sur ces 6000, les 5970, boum, c'est reparti comme une balle, sans rencontrer la moindre contrepartie. Il est tout à fait possible de faire la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas, là, à l'instant T, prendre de vraies initiatives sur un scénario précis. Voilà, c'est ce que je fais actuellement. C'est pour ça que je suis opportuniste. J'essaye de faire des écarts, mais toutes les positions que je vais monter, à la limite, ça serait via des options, peut-être jouer des stratégies de spread, je sais pas, mais en tout cas via les options, parce que l'indication directionnelle, si sur le fond elle reste baissière, sur intraday elle reste baissière, eh bien on est sur un niveau potentiellement support important. Et donc, il ne s'agit pas de se faire avoir et de vendre au plus bas, ça serait quand même, enfin, de la phase de marché, ça serait quand même assez dommage. Donc, on n'a pas grand-chose à rajouter par rapport au jour précédent. Il faut faire preuve de patience, de prudence. Il y a pas de complaisance sur ce marché. C'est pour ça qu'il ne part pas en vrille. Il n'y a pas d'effet domino à la baisse. Voilà, donc, tout ça ne tient pas à grand-chose. Et c'est pour ça que c'est pas le moment d'appuyer sur le bouton en force. Non, faut vraiment rester soft. Il en est de même sur l'euro-dollar. Regardez, tranquillement, il est remonté, il reste à parité. Il sait pas trop comment s'orienter. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs des marchés se disent bon, ben on va attendre Powell, voir ce qu'il va nous raconter sur les taux d'intérêt. Et en attendant, eh ben écoutez, on va attendre, on va patienter, et on va ni faire preuve d'euphorie. On s'est fait avoir la fois dernière parce qu'on a cru que il allait peut-être annoncer de bonnes choses, enfin que ça allait être moins restrictif, etc. Et en fait, ça, le marché a replongé. Donc, il y a une très grande méfiance, prudence,
d'accord,
avec une parfaite conscience des enjeux du marché.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, depuis Perceval Finance Conseil, Romain Daubry, chez Bourse Direct, qui suit cette tendance ce matin. Et on se retrouve tout à l'heure, Romain, à 11h30 pour reprendre le pouls de ce marché parisien qui, pour le moment, est en baisse de 0,24% à 6046 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Des aliments plus chers et pourtant plusieurs instituts d'études observent que c'est plus cher mais que la consommation résiste. On achète donc toujours autant ?
Oui, absolument. C'est là où c'est merveilleux les chiffres parce que je pourrais vous faire tout un laïus pour vous dire que finalement les choses ne vont pas si mal que ça. Et évidemment, après, c'est quand on va décortiquer le chiffre qu'on va se rendre compte que il y a un mouvement assez profond sur la composition du panier, sur les attitudes des consommateurs. Par exemple, on voit qu'il y a des produits qui sont de moins en moins présents dans les paniers. Tout ce qui est épicerie sucrée a sacrément reculé, le chocolat a beaucoup reculé, et alors la boucherie et la poissonnerie, où là on a des niveaux d'inflation qui sont très, très importants, là aussi ça a beaucoup 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 baissé. Donc la composition du panier a changé, même si la quantité n'a pas changé. Après, vous regardez certains fruits et légumes de fin d'été là, vraiment c'était des produits de luxe. La pastèque, la pêche étaient un produit de luxe, les tomates en grappe, les haricots verts. On peut considérer que ça devient des produits pour certains inabordables avec des niveaux de hausse de prix de plus 22, plus 23, plus 25%. Troisième élément, il y a plus de premiers prix et un peu moins de produits bio. Alors on pourrait dire, bah oui, c'est la qualité qui baisse, c'est vrai. C'est vrai, mais en plus, même ce mouvement-là, c'est pas un mouvement massif. On voit que le volume des MDD, des marques de distributeurs, il progresse pas mal, il progresse de 15%. Mais quand vous prenez finalement les premiers prix dans le panier global de l'ensemble des consommateurs, on a que 3% de premiers prix. C'est pas une sorte de volte-face. Et puis il y a un dernier élément qui est assez révélateur. Quel est le top 3 des anciens de la grande distrib qui vraiment cartonne depuis le début de l'année? Eh ben, c'est Leclerc, Lidl et Aldi. Trois enseignes qui ont comme point commun d'avoir misé tout en priorité sur le prix, et d'abord le prix. Et donc oui, le volume ne change pas, mais qu'est-ce qu'il y a comme modification dans les comportements et dans les paniers? C'est vraiment impressionnant. Et encore, on était jusqu'à l'été à des niveaux de hausse de prix dans l'alimentaire qui ne sont pas du tout ceux qu'on va connaître à la fin de l'année.
Donc le bilan de tout ça, c'est que l'inflation a quand même sacrément bouleversé nos achats alimentaires, même si un volume En volume, c'est pas flagrant, quoi.
Oui, alors en volume, il y a en plus des explications qu'on ne soupçonnerait pas. Et le cabinet Nielsen, qui est un cabinet d'études habitué de ce type d'observation, a constaté qu'avec Covid, évidemment, on allait moins au restaurant. Mais en fait, il y a des habitudes de Français qui ont changé, qui n'y vont plus, même si les restaurants ont rouvert, et qui donc prennent beaucoup plus de repas à la maison. Donc finalement, il y a un effet volume, parce qu'il y a un peu moins de restaurants, donc on achète davantage pour le foyer. Après, derrière les volumes qui se maintiennent, il y a aussi une tendance de fond, et c'est un quasi coup d'arrêt. Les grandes idées du mangeons moins mais mangeons mieux, très franchement, le mangeons moins, mangeons mieux, c'est quand même vraiment en train de ralentir, voire de s'arrêter. Alexandre Bompard, tout récemment, le patron de Carrefour, disait sur les œufs bio et les œufs bio et label rouge, on a des baisses de vente de 20%. C'est quand même des baisses importantes. Et puis là, comme toujours, je vous parle de moyenne. Et on est d'accord que la moyenne est la réalité de personne. Et la photographie est encore moins réjouissante quand vous commencez à regarder les bassins de vie, les lieux d'existence, les bassins d'emploi, les niveaux de revenus. Là, il n'y a pas simplement un changement de composition du panier, mais il y a un rétrécissement du panier. Et le sujet, c'est que cette inflation alimentaire, elle n'est pas terminée. Et quand on demande aux grands distributeurs comment ils voient le marché se dessiner, ils vous disent 2023, n'attendez rien de bien. Et peut-être 2024, on peut imaginer arriver à des niveaux de pic d'inflation. Je rappelle que le pic d'inflation, ça ne veut pas dire que les prix, si même l'inflation décélère, les prix, certains peuvent rester au niveau qu'ils avaient atteint. Ce qui veut dire, en résumé de tout ça, qu'on est au début d'une évolution où les comportements changent, où la façon de s'alimenter des gens évolue. Et c'est le début d'un processus qui est un processus assez inerte. Et donc, derrière le chiffre, oui, les volumes ne bougent pas, tout va très bien. En fait, tout ne va pas très bien.
Et où est-ce qu'on se situe par rapport à nos voisins?
Écoutez, pour une fois, le fait d'être dans le bas du classement, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, depuis le début de l'année, l'OCDE avait fait des photographies en considérant qu'on était vraiment, vraiment nettement en dessous des niveaux d'inflation qu'on pouvait observer dans les autres pays. Mais ce sont des chiffres qui ont déjà quelques semaines. Et il n'y a pas si longtemps, on a commencé à bouger dans le classement. Et d'ailleurs, l'INSEE a observé que l'inflation sur les produits alimentaires de la fin du mois d'août flirtait avec les 6 et considère qu'on sera probablement à 12% d'inflation en rythme annuel à la fin du mois de décembre. C'est pour ça que je vous dis qu'on est qu'au début d'un processus qui va se confirmer en 2023. Ça ne veut pas dire qu'en 2023, l'inflation va être le sujet dominant, mais en tout cas, sur l'alimentaire, ça va être un sujet important. Et donc, on se rend compte qu'on a une inflation qui n'est pas l'inflation américaine sur le sol européen, mais aujourd'hui, l'un des principaux carburants, finalement, de cet indice des prix, c'est plus devenu l'alimentaire que l'énergie. Et donc, c'est un sujet qu'il va falloir surveiller parce que ça va vraiment provoquer des mutations. Et certaines mutations, on le voit avec Covid, sont des mutations qui s'installent dans la durée.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien qui lui reste sous son niveau d'équilibre. On est en train de tenter un petit rebond pour peut-être revenir justement sur le niveau de clôture d'hier soir. On perd 0,21% à 6048 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille maintenant Jérôme Dédéian. Bonjour Jérôme.
Bonjour Cédric.
Pour mon partenaire patrimoine, vous allez aujourd'hui nous apprendre à distinguer les bons des mauvais PER. Vous allez refaire le coup des inconnus là, avec les bons et les mauvais chasseurs.
Oui Cédric, pour rigoler, je pourrais en effet vous dire que un bon PER, il voit un épargnant, il collecte, il capitalise et puis il restitue. Et c'est un bon PER. Alors qu'un mauvais PER, il voit un épargnant, il collecte, il capitalise, il restitue, mais c'est un mauvais PER. Enfin, votre émission est quand même beaucoup plus sérieuse que ça.
Voilà, on donc essaye.
On va essayer de travailler un peu sur les clés d'analyse d'un bon et d'un mauvais PER, car pour un épargnant non initié, ça peut sembler parfois difficile de s'y retrouver dans la jungle des produits disponibles sur le marché.
Allons-y, les caractéristiques d'un bon PER.
Alors, je vais être très direct, Cédric. D'abord, un bon PER, on va parler des frais. Un bon PER, c'est un PER à zéro de droit d'entrée. Voilà, ça c'est assez simple.
Ça veut dire qu'ils sont tous plus chers que zéro de droit d'entrée.
Alors oui, sauf que les droits d'entrée sont la plupart du temps à la main du distributeur. Et donc évidemment tout l'enjeu c'est d'avoir un conseil initial, quitte à le payer en honoraire au début pour bien structurer sa démarche, mais de ne pas avoir ensuite un péage sur les flux, sachant que le distributeur va financer son conseil dans la durée par une quote-part des frais de gestion qui lui sont rétrocédés par le fabricant du PER. Et donc c'est évidemment essentiel de pas payer des droits d'entrée sur les flux et d'avoir des frais de gestion dans le marché.
Bon, ça veut dire quoi des frais de gestion dans le marché? C'est une expression?
Alors, c'est assez simple. C'est en fait moins de 1% sur les unités de compte et généralement un peu moins sur le fonds euro. Mais attention, vous savez que ce qu'on prend sur les frais du contrat, ce que l'assureur prend comme frais de gestion sur le contrat, finance un certain nombre de services et de garanties. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on a pour l'argent qu'on paye. Il y a deux points de sensibilité importantes auxquels il faut faire attention. Le premier point, c'est que pour ce prix-là, normalement, on doit avoir un service de gestion piloté gratuit. On ne doit pas vous facturer en plus le service de gestion pilotée. La deuxième chose, c'est la protection contre la dérive l'allongement de la durée de vie en cas de décision de convertir tout ou partie de son capital en rente à vie. Et dans ce cas-là, il faut évidemment avoir une garantie de table de mortalité à la souscription du contrat, garantie de table qui est provisionnée par l'assureur par une quote-part de ses frais de gestion. Donc ça veut dire que frais de gestion dans le marché sans la garantie de table et avec un service de gestion piloté partagé en plus, en fait, c'est trop cher.
Donc, il faut faire attention au montant, mais aussi à ce qu'on a comme garantie pour ce montant. Mais comme pour tout contrat, il y a aussi des frais sur les unités de compte.
Ah, oui, bien sûr. Et là, évidemment, Cédric, c'est une affaire de choix et de largeur de la gestion, et puis de vision qu'a l'épargnant de ce dans quoi il veut mettre ses sous. On a des épargnants qui vont préférer de l'indiciel parce qu'ils pensent que c'est moins coûteux. Et puis d'autres qui vont préférer des gestions à valeur ajoutée, conformes à leurs valeurs, et qui sont prêts à payer la valeur ajoutée de la gestion. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que depuis la réforme des frais du PER, de l'affichage des frais, qui est effective depuis le 1er juillet dernier, on sait exactement ce qu'on paye où en fonction de ses choix, et ça c'est important.
Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les frais ?
Alors oui, évidemment, on ne va pas parler que des frais, mais il faut évidemment prendre garde aux frais annexes, c'est-à-dire tout ce qui est frais d'arbitrage, faire attention de qu'ils soient raisonnables. Et puis évidemment, il y a tous les enjeux de frais sur arriérage de rente. Si on choisit pour toute partie du capital qu'on a accumulé une sortie en rente à vie à l'échéance, ils sont parfois très élevés. Il faut faire attention aux tarifs pratiqués.
Bon, on ne va pas passer toute notre chronique sur les frais, c'est important et on l'a bien compris, mais il y a aussi d'autres critères, d'autres caractéristiques à prendre en compte.
Évidemment, Cédric, puisqu'il vaut mieux payer à son prix un produit qui vous donne satisfaction et qui a une performance nette élevée, que pas cher, un produit peu performant et qui ne vous donne pas satisfaction. Alors, on a, vous savez, dans le groupe de Mon Partenaire Patrimoine, on a le site Tout sur mes finances avec des journalistes qui décernent les tops du PER. Et donc, tous les ans, on screen. Cette année, on a screené plus de 50 contrats avec des gens qui ont répondu à nos questionnaires détaillés, etc. Nos journalistes sont assez sensibles à un certain nombre de points. Évidemment, l'étendue de la gamme de placements disponibles pour la gestion financière. Le PER est en train de prendre sa place pleine et entière dans le paysage de l'épargne des Français, aux côtés de l'assurance-vie.
Donc
il faut désormais un PER avec autant de choix de placement qu'on peut avoir dans les meilleurs contrats d'assurance-vie. Donc ça veut dire évidemment de la multigestion. Ça veut dire, en plus du fonds euro, un ou plusieurs fonds euro-croissance, parce qu'ils reprennent un peu de poil de la bête avec la remontée des taux. Ça veut dire une très très vaste choix de produits immobiliers pour les gens qui n'ont pas trop d'immobilier à côté et qui veulent pouvoir diversifier. Donc c'est des OPCI, des SCPI, des SCI, très classiquement, comme dans tout contrat d'assurance. Et puis, évidemment, l'irruption du private equity, donc classe d'actifs qui est assez intéressante, notamment dans des temps de marché boursier côté chahuté, pour développer de la performance. Et puis fonds d'infrastructure avec leur rendement régulier, voire des fonds structurés pour ceux qui le souhaitent. Donc on a vraiment une convergence en fait de l'étendue de choix des PER.
Et c'est important d'avoir le choix.
Et c'est évidemment essentiel parce que ça vous permet à la fois de diversifier, d'avoir l'allocation qui correspond à votre profil d'investisseur, et aussi d'avoir l'offre de placement qui correspond à vos valeurs. Par exemple, si vous voulez investir sur la transition écologique et énergétique, eh bien, il faut évidemment qu'on vous propose un choix de placement suffisant là-dessus.
Est-ce qu'il y a d'autres points
Alors, il y a évidemment d'autres points qui sont des points logistiques, tout simplement de services. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin. Un PER qui aujourd'hui n'a pas l'intégralité de ses services en ligne, de la souscription, même s'il est accompagné par un conseiller, de la souscription aux arbitrages en passant par les demandes de rachat, etc., est un PER qu'on ne peut pas sélectionner comme étant un bon PER. Ce n'est pas possible. Vous voulez avoir accès à votre contrat sur Internet, sur votre smartphone avec une appli, etc., etc. Mais il faut évidemment, derrière cette facilité d'accès, regarder les dates de valeur, comme sur tout contrat d'assurance vie, parce que entre le moment où vous passez votre instruction et le moment où elle est exécutée, il peut y avoir de grosses différences de qualité
entre
contrats. Exactement. Il faut aussi vérifier que votre PER individuel, il a bien les trois compartiments. Le compartiment de vos versements volontaires défiscalisés ou de votre retraite Madelin si vous êtes un TNS et ou de votre retraite Madelin. Le compartiment d'épargne salariale, celui qui accueille la participation, l'intéressement, l'abondement de l'employeur et le compartiment des versements obligatoires des régimes obligatoires d'entreprise. Ça ne veut pas dire que vous pourrez les alimenter avec si c'est un PER individuel, mais ça veut dire que tout ce que vous aurez eu pendant votre carrière, dans votre cadre professionnel, pourra être migré. C'est le principe du PER, un seul plan pour les gouverner tous, pour que vous ayez tout regroupé à l'endroit où vous êtes le mieux servi et où vous êtes content du produit. Et puis évidemment, Cédric, et là évidemment, vous connaissez mon engagement au service de la distribution à valeur ajoutée, un bon PER, c'est un PER conseillé, vous pouvez avoir un super produit, s'il n'est pas conseillé, vous n'en ferez rien. Un PER, c'est en fait un projet de vie, et donc il faut absolument être accompagné.
Alors, on a bien compris que c'était un produit essentiel, mais que si on l'utilisait mal, finalement, un bon PER pouvait être un mauvais produit.
Mais oui, parce qu'il y a une vie du PER. Vous avez une phase de structuration hein, de l'approche. Donc ça consiste, vous le savez, à recalculer le disponible fiscal de chaque foyer fiscal, à reprendre tout ce qui n'a pas été pris en compte par l'administration fiscale, ce que vous avez eu dans votre entreprise, à regarder le disponible fiscal de tous ceux qui n'ont pas de revenus, et notamment des enfants rattachés au foyer, qui peut être un levier d'utilisation. Il y a évidemment le croisement de ce disponible, hein, cette capacité de défiscalisation avec la capacité d'épargne du foyer. Tout le monde ne peut pas mobiliser la totalité. Et puis avec la facture d'impôt, ce n'est pas la peine d'aller surcotiser par rapport à ce que vous pouvez faire comme économie. Ensuite, il y a évidemment tout l'enjeu de l'allocation d'actifs et de son suivi, horizon de temps, profil de risque et de son cohérence avec le reste du patrimoine. Cette boucle en fait, de structuration de l'approche du projet de vie qu'est le PER doit être faite initialement et puis tout au long de la vie de votre PER.
On a toutes les clés grâce à vous.
Il y a un dernier point, c'est la restitution.
Oui.
Parce que ça capitalise et ensuite ça restitue. Et donc il faut restituer intelligemment le choix entre rente et capital en une ou plusieurs fois en fonction de votre situation financière, de santé, de est-ce que vous avez encore des crédits immobiliers, fin de crédit immobilier à payer, études des enfants d'un deuxième lit, ou au contraire, est-ce que vous cumulez emploi-retraite et donc vous pouvez décaler un peu le moment où vous reprendrez votre argent ou récupérez ou vivrez dessus.
Voilà. On a donc toutes les clés. Si on est déçu,
alors,
qu'est-ce qu'on fait ?
Donc vous l'avez compris, hein, Cédric, hein, si on reprend les inconnus, hein, un bon PER, bon, c'est assez simple, hein, un bon PER, il voit un épargnant, il structure une démarche de vie, il collecte, il capitalise, il réfléchit à la sortie, et ensuite il restitue intelligemment. Et si votre PER ne fait pas ça, soit parce que le produit n'est pas bon, compte tenu de ce qu'on a dit comme caractéristique, soit parce que le conseil n'est pas bon sur le produit, eh bien la bonne nouvelle, c'est que le PER, c'est intrinsèque dans sa naissance, dans la loi PAC, il est transférable à tout moment d'un prestataire à l'autre avec des frais limités en montant et dans le temps. Donc ça veut dire qu'au bout de quelques années, vous pouvez transférer sans frais votre PER chez le prestataire de votre choix avec le conseil que vous souhaitez.
Et on agit quand ?
Et vous agissez quand vous voulez. Vous savez comment on est là, on est toujours, les gens s'y prennent toujours au dernier moment. Donc là, on est le 20 septembre. D'accord ? Tout le monde a reçu son bulletin, son avis d'imposition à l'intérieur de son truc. Donc si vous voulez faire en sorte... donc vous n'avez pas de PER, vous payez des impôts. C'est une honte de ne pas en avoir, on en a déjà parlé. Donc allez voir un professionnel maintenant pour éviter l'embouteillage de fin d'année et chez les conseillers et chez les industriels. Deuxièmement, vous avez un PER et vous n'en êtes pas content. Soit parce que le produit n'est pas bon, soit parce que le conseil autour du produit n'est pas bon, ou les deux. Eh bien, allez voir un professionnel maintenant, faites le travail de sélection d'un bon PER pour vos versements de cette année, en reprenant tout de suite la main, et puis il sera toujours temps de faire l'analyse du transfert et de le demander le moment venu, notamment après l'échéance de l'abandon des frais de transfert que la réglementation...
Le but étant de ne plus être malheureux dans son PER.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être malheureux dans son PER.
Jérôme Dédéian est mon partenaire patrimoine. On se retrouve tout à l'heure. Vous répondrez aux questions des auditeurs. Le CAC lui perd 0,24%, 6046 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille maintenant Stéphane Cohen. Bonjour.
Bonjour, Cédric.
Merci d'être avec nous, présidente d'Alta Profit. Et en exclusivité, vous nous proposez aujourd'hui les résultats d'un baromètre consacré à l'épargne des Français et plus précisément à leurs attentes sur toutes les questions liées à la retraite. C'est bien ça ?
Absolument, Cédric. Il s'agit donc d'un baromètre qui est réalisé par l'IFOP, donc pour Alta Profit. Et ce baromètre va sonder les Français sur leurs attentes en matière de retraite. Ce baromètre, donc concrètement... Comment il fonctionne. Donc, c'est la quatrième édition. Il intervient à la suite d'événements à la fois économiques, géopolitiques. Donc, il était intéressant, plus particulièrement cette année, de mesurer les attentes des Français quant à la préparation de leur retraite. Donc, ils prennent tout simplement un échantillon, selon la méthode des quotas, un échantillon de Français, selon le sexe, l'âge, la profession et les régions. Et c'est un questionnaire qui est auto-administré en ligne.
Qu'est-ce qu'il nous dit, du coup, ce baromètre ?
Alors, il nous dit beaucoup de choses. Au regard, aujourd'hui, donc, de la tentation du gouvernement de passer en force la réforme des retraites, c'est intéressant de voir, effectivement, ce que pensent réellement les Français. Alors, on tire un certain nombre d'enseignements sur la préparation de la retraite et ce qu'ils attendent. On va retenir trois enseignements. l'enseignement particulièrement. Le premier point, c'est l'âge. D'accord. L'âge de départ à la retraite. Et en interrogeant les Français sur l'âge idéal, ils sont 7 sur 10 à répondre que pour eux, l'âge idéal pour partir à la retraite, c'est 62 ans maximum. Et on va un petit peu plus loin. Ils sont 4 sur 10 à dire que finalement, partir à la retraite à 60 ans, c'est pour eux l'âge idéal.
Et il y en a quand même qui voient plus loin ?
Alors, il y en a qui voient plus loin, mais ils sont plus âgés. D'accord. Mais ils sont peu nombreux. Ils sont que 8% à dire que finalement, un départ à 65 ans pourrait être un âge idéal. Donc, on voit bien que ce sujet de départ à la retraite, c'est vraiment un sujet qui crée des crispations et on le comprend au regard de ce baromètre.
Quel autre point ?
Alors, le deuxième point, c'est le clivage générationnel.
D'accord.
On se rend compte qu'effectivement, quand on interroge les Français, 81% des moins de 35 ans disent l'âge idéal de départ à la retraite, c'est 62 ans. Et ils sont même très nombreux à tirer sur 60 ans. Et quand on regarde là encore plus précisément, eh bien c'est l'âge de 59 ans et quelques mois qui est l'âge qui intéresse vraiment les jeunes générations, les moins de 35 ans. Et par contre, dès qu'on a affaire à une population plus âgée, eh bien on revient sur cet âge entre 62 et 63 ans. Donc on voit bien ici l'appréhension différente du monde du travail et de cette préparation à la retraite pour les jeunes générations.
Quel autre enseignement ?
Et le troisième enseignement, c'est la sensibilité véritablement des Français sur la préparation et le financement par eux-mêmes d'un dispositif pour se procurer des revenus complémentaires au moment de la retraite. Et là, c'est aussi très, très, très marqué. Si on se résume, finalement, les Français, 65 ans, l'allongement de la durée de travail, ils veulent pas.
D'accord.
Ils veulent pas non plus qu'on augmente les cotisations de financement du régime de sécurité sociale, donc pour préparer la retraite. Et donc, on voit bien que là, qu'est-ce qui ressort ? Quand on parle de cette durée, de ce débat sur la durée, eh bien, ce qui ressort pour 72% d'entre eux, c'est qu'il faut qu'on se prépare soi-même sa retraite.
Et du coup, comment ? Avec le PER, par exemple ?
Alors, très clairement, effectivement, le PER s'invite dans le paysage des produits et des dispositifs pour se préparer la retraite. Le PER est né il y a 3 ans avec la loi PAC. Et là, très clairement, c'est un produit qui est cité à 35%, les Français citent le PER. Ils ne citent même pas le plan épargne retraite, ils citent le PER. On voit bien qu'on a un produit qui est rentré dans le paysage.
Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ?
Alors, le premier conseil à chaud, c'est il faut commencer le plus tôt possible. Voilà.
D'accord.
On est sensible, il faut se créer sa propre retraite complémentaire, il faut démarrer le plus tôt possible. Finalement, première fiche de paye, première cotisation, première préparation à un régime de retraite obligatoire, eh bien, il faut aussi ouvrir un PER. Et on se rend compte aujourd'hui que sur le marché, on trouve des PER qu'on ouvre avec très accessible, 100 euros, et ensuite, on peut verser 25-50 euros. Et ce qu'il faut, et là, je rejoins votre intervenant précédent, ce qu'il faut, c'est un PER extrêmement souple, extrêmement flexible, et que le PER, c'est une épargne longue, il va nous accompagner pendant toute la durée de vie de professionnelle, et il faut pouvoir l'alimenter avec des primes plus importantes à un moment donné, les réduire, les arrêter et qui s'accompagne bien dans le temps. Après, le conseil ou le point de vigilance, il faut acheter aujourd'hui un PER sans frais d'entrée, sans frais de versement. Parce que sur une durée, une épargne longue, ça a un impact considérable sur la valorisation nette du capital. Il faut un PER qui propose des solutions d'investissement sur des supports pertinents qui s'inscrivent bien dans une épargne longue, donc de l'immobilier, des actions en direct. Il ne faut pas passer 40 ans sur son fonds en euros dans son père. Voilà. Et pourquoi pas venir choisir aussi des mandats d'arbitrage, c'est-à-dire déléguer la gestion de son père à un professionnel. On en trouve également dans les pairs.
Stellan Cohen pour Alta Profit, merci beaucoup d'être passé nous voir et on vous renvoie effectivement, si vous l'avez manqué, à travers les podcasts à la proposition faite par Jérôme Dédéian il y a un instant sur le PER pour avoir un bon PER. Dans un instant, un détour par les marchés et puis regard croisé.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.